Faut-il s'inquiéter de la faiblesse militaire de l'Union européenne dans le contexte actuel? C'est là toute la question, et c'est la question d'ailleurs qu'on a posée à Alain Deneuve. Il est chercheur au Centre de sécurité d'études à l'Institut royal supérieur de défense. Il nous éclaire sur ce sujet en répondant à vos questions, ma chère Lucie.
Deneuve, bonjour. Vous êtes chercheur au Centre de sécurité et d'études à l'Institut royal supérieur de défense. Le conflit en Ukraine va entrer dans sa deuxième année cette semaine et Volodymyr Zelensky, en difficulté sur le plan militaire, a lancé un nouvel appel ces derniers jours. Il demande plus de munitions de la part de ses alliés et principalement de l'Union européenne. Alors pour commencer, cela pose la question de la capacité de l'Union européenne à répondre à un tel appel. Est-ce un problème de stock disponible ?
C'est en partie une question de stock disponible parce qu'il est vrai que pendant plus de 20 ans, l'Europe a bâti, je dirais, son discours et l'ensemble de son industrie sur les dividendes de la paix issue de la guerre froide. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve non seulement devant très certainement un problème de stock qui n'a, je dirais, dimensionné pour la perspective d'un conflit conventionnel sur le continent européen, mais il y a aussi une adaptation nécessaire des industries de défense et notamment des chaînes de production, des chaînes logistiques pour, je dirais, effectivement s'adapter à la nouvelle configuration sécuritaire du continent européen qui s'est profondément modifiée en à peine 10 ans.
Alors, quelle est la marge de manœuvre de l'Union européenne ? Est-ce que c'est un problème de réticence à mobiliser l'industrie européenne dans une production de guerre ?
Le problème est particulièrement complexe et multidimensionnel. Il est vrai que ces derniers jours, on a bien senti qu'il y avait au niveau politique une volonté d'alerter à la fois les opinions politiques, mais aussi les opinions publiques sur la crainte qu'il pouvait y avoir de connaître une aggravation, je dirais, de la situation en Europe, notamment avec l'attitude de la Russie. Et en conséquence de cela, il y a des demandes qui sont formulées aujourd'hui à l'industrie pour répondre à cette mise en alerte, je l'appellerai comme ça. L'industrie est prête évidemment à modifier ses chaînes de production, à adapter ses outils et à rentrer, je dirais, petit à petit dans une forme d'économie de guerre, mais dans le même temps, elle peut être aussi méfiante et elle aurait raison de l'être, puisque ce qu'elle craint, c'est peut-être que si d'ici 2 à 3 ans, si, imaginons, la situation venait à s'apaiser, à se réguler ou à s'installer ou à se figer dans une certaine durée, l'industrie craint aussi que du jour au lendemain, on lui demande de ralentir la cadence alors qu'elle elle venait à peine d'avoir accéléré le rythme. Donc, il y a vraiment, on est dans une période, je dirais, un peu de transition dans la manière selon laquelle l'Europe essaie de s'adapter à cette nouvelle configuration géostratégique.
Et donc, est-ce que ça pourrait représenter pour l'Union européenne une opportunité de revoir sa posture, de s'engager sérieusement vers une souveraineté militaire accrue, comme par exemple créer une véritable Europe de la défense ?
Alors, oui, c'est quelque part l'arlésienne hein, du débat européen, hein. Cette Europe de la défense, on l'a pensé déjà lancée il y a 20 ans après, ou juste au moment de la guerre du Kosovo, où on se disait eh bien, l'Europe doit être capable de pouvoir produire une force d'interposition, une force capable effectivement de stabiliser une situation sur son sol. Il y a eu de multiples projets, les battle groups, des initiatives, l'Agence européenne de défense, la coopération structurée permanente. Mais on le voit aujourd'hui, on est dans une configuration où les innovations conceptuelles, les innovations institutionnelles doivent être mûrement réfléchies, orientées vers plus d'opérationnalité, pour juste parce que si l'on entend certains certaines capitales, le calendrier est relativement serré. On parle, les projections se font sur la base de différentes appréciations et analyses. Le calendrier est fixé à 2030 pour dire, voilà, le risque d'une éventuelle agression nouvelle de la Russie pourrait intervenir à cette échéance.
Et donc, en fait, qu'est-ce que ça supposerait comme condition pour atteindre cet objectif ? Quel changement politique et industriel serait nécessaire ?
Ah, déjà, il y aura, je dirais, le dimensionnement des armées. Il faudra, évidemment, si on rentre dans cette logique, produire plus d'armement, plus de capacités dans tous les domaines, que ce soit dans les domaines navals, aériens, ou terrestre. Il faudra davantage de coordination entre les États européens, que ce soit entre eux ou entre eux dans le cadre de l'OTAN. Donc cela demande une certaine mécanique, des rouages, des habitudes de travail. Elles existent déjà au niveau de l'OTAN, mais il est vrai que comme la Russie, la question de la Russie devient de plus en plus un problème européen, et on sent les États-Unis avoir de plus en plus de difficultés à mobiliser le pays, les opinions sur la question de la sécurité européenne, eh bien les Européens devront évidemment se mettre que le problème russe est un problème qui est européen et que ce problème européen devra être géré principalement par les Européens. Donc, des Européens pourront certes s'appuyer sur les structures otaniennes, sur, je dirais, la boîte à outils de l'OTAN, éventuellement avec un appui qui serait fourni à distance par les États-Unis, avec des États-Unis plus en retrait, plus en recul, mais qui soutiennent quelque part de loin les Européens à travers de l'aide militaire ou que sais-je. Mais, je dirais, la prise en charge du problème sera une prise en charge européenne.
Et donc, ça me fait une excellente transition parce que, justement, je voulais évoquer avec vous la dépendance de l'Europe en termes d'armement vis-à-vis des États-Unis et en particulier à la lumière du possible retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Est-ce que vous pouvez élaborer ?
Oui. Oui, il y a eu des propos, gravissimes de la part de Donald Trump par rapport à la poursuite, ou en tout cas la pérennité de la solidarité des États-Unis dans le cadre de l'OTAN. Ce sont des propos qu'il ne faut pas prendre à la légère. Et en même temps, on a déjà produit des similaires en 2018, notamment lorsqu'il avait rencontré à l'époque Angela Merkel. On connaît évidemment le tropisme isolationniste de Donald Trump, qui s'inscrit aussi dans une certaine culture stratégique américaine, hein, qui n'est pas nécessairement, contrairement à la multiplicité des engagements qu'il y a eu des Américains dans ces 30 dernières années, il y a toujours cette tentation à une forme de repli, à considérer les questions de sécurité européenne comme des questions d'abord européennes. Le problème, c'est qu'il y a l'OTAN, il y a la solidarité atlantique, il y a l'article 5, il y a cet engagement en matière de défense mutuelle. La question est de savoir, est-ce que, si jamais il est élu, est-ce que Donald Trump persistera dans cette attitude contre vents et marées, ou bien principe de réalité, parce que sur le long terme et globalement, l'OTAN est aussi un bon deal des Américains. Il ne faut surtout pas croire que l'OTAN est une charge. Et sur le fond, d'ailleurs, Donald Trump a tort. Les Européens payent. Okay. À hauteur, paye tout ce qu'ils doivent payer dans le cadre de l'Alliance. La question des 2%, c'est autre chose.
Et donc, finalement, ma dernière question, est-ce que cette incertitude politique remet en question la viabilité à long terme de l'Alliance de l'OTAN ?
Il Atlantique, telle qu'elle est constituée, constitue déjà une exception au regard de l'histoire des alliances, que ce soit au niveau de l'histoire ou que ce soit à l'échelle géographique, vous n'avez pas d'autres exemples d'une alliance militaire, politique militaire, une alliance qui est en même temps institutionnalisée et surtout depuis aussi longtemps. Une alliance, c'est une organisation, ce sont des États qui sont qui décident de s'engager ensemble, parfois aussi pour des raisons qui sont différentes, tant qu'elles restent, je dirais, compatibles, c'est-à-dire qu'elles ne s'excluent pas mutuellement. La question de l'avenir de l'OTAN, c'est une question évidemment qui doit être posée, parce qu'une alliance, n'importe quelle organisation, de toute façon, ne sera jamais éternelle. Mais s'il est bien un moment où l'alliance doit persister, perdurer, c'est bien le moment que l'on traverse aujourd'hui. Donc il est regrettable qu'il y ait ce débat en plein milieu d'une crise stratégique comme celle que l'on connaît. Ce débat, il aurait fallu peut-être l'avoir avant, ou bien faudra-t-il l'avoir après, dans le cas où on parvient à surmonter, je dirais, cette période d'incertitude stratégique. Mais ce débat ne peut certainement pas avoir lieu maintenant. C'est ça la grave erreur qui a été commise par Donald Trump.
Eh bien, Alain Deneuve, je rappelle que vous êtes chercheur au Centre de sécurité et d'études à l'Institut Royal Supérieur de Défense. Merci d'avoir répondu aux questions de Radio Judaïka.
Avec plaisir. Merci à vous.